Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 12, DAF Yudbet.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Yebamot Yudbet. La Gemara nous ramène au nom de Shmuel que Tsarat Memaelet Asura, c'est-à-dire une enfant qui a été mariée avant l'âge de 12 ans, elle a la possibilité d'annuler ce mariage par Mioun. Si jamais son mari est décédé, elle peut faire Mioun face à un des frères. Si jamais elle a fait Mioun par rapport à un des frères, non seulement elle est interdite, mais sa Tsara aussi, sa concurrente aussi. Demande la Gemara de quoi on parle. Si tu me dis qu'elle est interdite aux autres frères, c'est pas vrai. Alors elle-même, celle qui a fait Mioun, peut se marier avec les autres frères, puisqu'elle n'a jamais été véritablement la femme du défunt, elle peut se marier avec n'importe lequel des frères. Et donc, si elle est permise, à plus forte raison que la Tsara est permise. Shmuel lui-même nous a dit que Miana baisait Moutaret baisait, c'est-à-dire que si elle a refusé l'un des frères, elle peut se marier avec un autre. Et là, forcément, tu parles par rapport à celui à qui elle a fait Mioun. Je ne comprends pas, demande la Gemara, pourquoi est-ce que cette même Aenet, elle est permise aux frères? Pourquoi? Parce qu'elle n'a eu aucune interaction avec eux. Eh bien, la Tsara aussi n'a eu aucune interaction avec cette personne-là. Pour la Gemara, on a peur que la Tsara, que la Mémaïnette, soit en vérité sa fille. Et puisque c'est sa fille, comment est-ce que sa fille peut être Mémaïnette si jamais il l'a mariée avant qu'elle ait 12 ans et cette fille a divorcé et elle-même s'est remariée avec quelqu'un d'autre? Elle peut faire un Mioun. Si jamais c'est sa fille, on a peur que cette fille-là fasse le Mioun et au final, on va permettre à la Tsara de se marier et de faire Yiboum avec un des frères. Or, dans ce cas-là, c'est interdit. Mais pourquoi Bémet c'est interdit? Arrête, c'est marqué dans notre Mishnah que si jamais une des 15 femmes interdites est morte, ou alors elle a fait Mioun, ou alors elle a divorcé, alors les concurrentes ont le droit de se marier. De quoi on parle quand on te dit qu'elle a fait Mioun? Si on parle d'un cas où elle a fait Mioun chez le mari, c'est comme si elle a divorcé du mari. On n'a pas besoin de le préciser. Et là, forcément, on parle d'un cas où elle a fait Mioun chez le Yavam. Et bien qu'elle ait fait Mioun chez le Yavam, on te dit que la Tsara est Mouteret. Donc on voit que Tsarat Bito Hamemayenet, puisque ça fait partie des 15 Arayot, elle est permise. On dit que maintenant, quand on parle dans la Mishnah, on parle d'un cas où elle a fait Mioun chez le mari. Dans ce cas-là, la concurrente a le droit et a l'obligation de faire Yiboum. Par contre, quand elle a fait Mioun après le décès de son mari, dans ce cas-là, elle est interdite. Et pourquoi, demande la Gemara, quelle différence? Quand elle a fait Mioun chez le mari, pourquoi est-ce qu'on considère que la concurrente doit faire Yiboum? Puisque quand elle a annulé le mariage, c'est une annulation rétroactive. De la même manière, quand elle a fait Mioun chez le mari, c'est une réaction rétroactive. Et donc, elle devrait être permise de faire le Yiboum. Et pour la Gemara, puisque Rabbi Baruch Hezkel nous a dit que si jamais une femme fait Mioun avec un homme, elle peut se marier avec son père. Pourquoi? Il y a eu annulation du mariage. Par contre, si elle a fait Mioun avec le Yabam, elle est assoura de se marier avec son père. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle doit faire ce Mioun-là, c'est-à-dire qu'il y a une interaction. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui les relie. Et ce lien-là, c'est justement de ça qu'on a peur. C'est-à-dire que les gens vont croire que bien qu'elle soit mariée, ça ne crée pas de problème. Or, c'est faux. Si Bémet, elle était mariée, ça aurait créé un problème. C'est pour ça qu'à partir du moment où sa fille est interdite, alors sa Tsara aussi est interdite. Donc, on conclut. Même Maenet, une femme qui fait Mioun, normalement annulation du mariage rétroactive, et il ne devrait y avoir aucun problème avec qui que ce soit, ni avec la personne à qui elle a fait Mioun, ni avec les autres, mais puisqu'il y a une certaine interaction, comme on voit Mioun du Yiboum, donc elle est elle-même interdite par rapport au Yavam, et la Tsara aussi est interdite, de peur que cette femme soit la fille du Yavam, et dans ce cas-là, la Tsara aussi devrait être interdite. Vassil nous enseigne que Tsara Taïlonite est interdite puisque une femme qui est Taïlonite ne peut pas avoir d'enfant et tout l'intérêt du Yiboum, c'est d'avoir un enfant. Si elle ne peut pas en avoir, il n'y a pas d'Yiboum. Donc on vient exclure non seulement la Taïlonite elle-même, mais la Tsara aussi est interdite puisque une des deux femmes ne peut pas faire Yiboum, sachant qu'elle est Echet Ar, elle est Taïlonite et elle reste Echet Ar. Demande la Gemara. Il est marqué que si jamais il y avait trois frères qui se sont mariés avec trois sœurs, et le premier est décédé, et le second a fait un Mahamar, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire Yiboum, et le second est aussi décédé, alors toutes les filles, toutes les femmes vont faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Puisque les deux femmes, la femme de Réhouven qui est tombée en Yiboum devant Shimon, elle a été dédiée à travers deux frères, c'est défini comme problématique. Et à ce sujet, il est marqué dans la Braïta que c'est seulement dans ce cas-là qu'on va interdire une femme parce qu'elle va rester en tant que Echetar à cause de son Yiboum. Et ça viendra donc exclure Aelonite. Pourquoi? Parce qu'on a le même schéma. On a deux femmes qui sont la première, la femme de Réhouven, la seconde, la femme de Shimon. La femme de Réhouven va se retrouver devant Shimon. Ce statut-là va lui interdire de faire le Yiboum, ce qui va conserver son statut de Echetar et ce qui va la rendre, elle, interdite et sa concurrente interdite. Exactement pareil dans Aelonite. Son statut de Aelonite lui conserve son statut de Echetar, qui va lui interdire le Yiboum et qui va interdire aussi à sa Tsara. Et puisque je vois que dans la Braïta on te dit, c'est seulement dans ce cas-là que ça arrive, ça vient exclure le cas de Aïlonite. J'ai dit, non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que c'est bien exclure. C'est seulement dans ce cas-là qu'ils devront faire Khalitsa. Mais dans le cas de Haïlonit, on ne devra même pas faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que l'interdit de Réhouven, Shimon et Lévi, les trois frères avec les trois femmes, c'est un interdit qui est seulement Midarabanan. Donc il faut faire Khalitsa. Mais l'interdit de Haïlonit est un interdit Minatora, donc il ne faut même pas faire Khalitsa. Il est marqué dans notre Mishnah devant la Gemara. Il est marqué que si une des femmes, des 15 femmes qui ont été citées, l'une d'elles est morte, ou elle a fait mioun, ou elle a divorcé, ou Haïlonit, leurs concurrentes peuvent faire Iboum. Donc on voit bien que Tsarat Haïlonit peut faire Iboum. La Gemara, c'est différent. Si jamais on parle d'une femme qui était clairement Haïlonit, donc le mari est resté marié avec elle, il n'y a pas de Mekar Taout, dans ce cas-là, Rav Assi a raison de nous enseigner que sa Tsara est interdite. Mais dans notre Mishnah, on parle d'un cas où on se rend compte qu'elle était Haïlonit, et donc il y a annulation du mariage rétroactivement. Et c'est pour ça que sa Tsara, sa concurrente, peut faire Iboum. La preuve, c'est qu'il est marqué chez Nimtseou. Il n'est pas marqué chez Hayou qu'elles étaient Haïlonit. Chez Nimtseou, c'est quelque chose qu'on convient de remarquer. Dans ce cas-là, Bémet, la Tsara peut faire le Iboum. La Gemara nous dit que la Halakha est que Tsara Haïlonit a le droit de faire Iboum, même si son mari était au courant qu'elle était Haïlonit et donc elle est définie comme une femme, il a le droit de faire Iboum. Et même si c'est Tsara Bito Haïlonit, on doit faire Iboum. Pourquoi? Puisqu'une femme qui est Haïlonit, c'est-à-dire ne peut pas avoir d'enfant, elle ne rentre pas dans la course de Iboum. Donc elle est exclue du Iboum. L'interdit de se marier avec une Tsara n'existe que quand on a deux femmes qui se trouvent en Iboum et l'une d'elles est problématique. Mais quand elle ne rentre pas dans la course du Iboum, elle ne tombe pas devant le Yabam, donc il n'y a pas on ne repousse pas la concurrente et donc la concurrente devra faire le Iboum. Ah, c'est marqué dans la Mishnah chez Nimtseou, explique chez Ayou qu'elles étaient tout le temps Haïlonites. Rav Yochanan vient et élargit ce que Rava nous a dit, non seulement ce cas-là, mais aussi Tsarat Pemaenet, ce que nous avait dit Shmuel précédemment, et Tsarat Marseille Groschâteau, la question qu'on avait hier, un homme qui se marie une seconde fois avec son ex-femme, après qu'elle se soit mariée, on s'était posé la question, est-ce que la Tsara a le droit de faire Iboum ou pas? Dans tous les cas, elles ont le droit de faire Iboum. Agman nous ramène qu'on a permis exceptionnellement à trois femmes d'utiliser les moyens de contraception. Une femme qui est une enfant, donc on a peur qu'elle tombe enceinte et qu'elle meure à cause de ça. Une femme qui est enceinte, de peur que l'enfant qu'elle porte va se détériorer parce qu'elle risque de tomber une seconde fois enceinte. Et une femme qui allaite, de peur qu'elle n'ait plus de quoi nourrir son enfant. Et c'est pour ça que on va leur permettre d'utiliser les moyens de contraception. Alors que Rachamim nous dise non, dans tous les cas, on va les laisser avoir des rapports sans moyens de contraception, puisque Shomer PTHM, ils ont qu'à laisser Hacher faire bien les choses. Dans tous les cas, dans la Braïta, il est marqué que c'est possible qu'elle va tomber enceinte et c'est possible qu'elle va mourir. Ça veut dire que ce n'est pas évident. Alors pourquoi dans notre Mishnah, il est marqué qu'il est impossible d'avoir une belle-mère qui va tomber en Iboum? Pourquoi est-ce que c'est impossible? On avait compris parce qu'une belle-mère, ça veut dire qu'elle a des enfants. Donc si elle a des enfants, ça veut dire qu'elle est adulte. Et si elle est adulte, elle ne peut plus faire mioun. Donc comment est-ce que tu peux me dire que pourquoi est-ce que tu l'as présenté comme ça dans la Mishnah? C'est faux. Une belle-mère peut avoir des enfants. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on peut avoir des enfants et ne pas mourir, c'est pas évident. Et puisqu'elle a, elle n'a pas encore 2 ans, donc elle peut faire mioun. Et donc on peut avoir une belle-mère qui est en train de faire mioun. Et pour la Gemara, tu as raison. Mais Emmet, celui qui a des enfants, c'est évident. Si elle a des enfants quand elle est enfant, c'est évident qu'elle va mourir. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est impossible que ça soit une belle-mère qui puisse faire mioun. La Gemara, et pourtant, Rabba Bar Shmuel ramène une Braïta où il dit que tu ne peux pas dire au sujet de la belle-mère, etc., qui se trouve à Haïlonit ou qui ont fait mioun parce qu'elles ont déjà eu des enfants. C'est pas la question, c'est pas les enfants. La question, c'est de savoir si elle est adulte ou pas. Et là, nous dit la Gemara, Bémet, tu as raison. Celui qui est une enfant, c'est pas sûr qu'elle va avoir des enfants et mourir. C'est pas sûr. Ah, bah si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'une belle-mère ne pourrait pas avoir des enfants? Pourquoi est-ce qu'une belle-mère ne pourrait pas avoir des enfants et faire mioun? La Gemara répond, parce que si elle a eu des enfants, c'est sûr qu'elle est adulte. Et donc, une femme qui a eu des enfants ne peut plus faire mioun. Il y en a qui expliquent que d'avoir des enfants, c'est plus que d'avoir des simanim. Qu'est-ce que ça change? Explique la Gemara. Puisque Rabbi Yehuda pense qu'en général, pour définir qu'elle a eu des simanim, on ne se suffit pas de deux poils. Il faut beaucoup plus que ça pour affirmer qu'elle est adulte. Si elle a eu des enfants, on n'a rien besoin d'autre. Rav Zvid, lui, nous dit, si elle a eu des enfants, c'est sûr qu'elle a eu des poils. C'est sûr qu'elle a eu tous les poils qu'il fallait d'après Rav Yehuda. La Gemara, t'as qu'à vérifier. La Gemara, non. Parce que peut-être les poils sont tombés. Mais comment tu peux dire ça? C'est une marloquette. Est-ce qu'on suppose que les poils sont peut-être tombés à partir du moment où il y a une autre raison de croire qu'elle est adulte? La Gemara nous dit oui, c'est vrai. Mais en général, il y a une marloquette. Mais dans ce cas-là, où elle était enceinte et elle a eu un enfant, c'est pour ça que même celui qui en pense en général qu'on ne peut pas imaginer que les poils sont tombés, dans ce cas-là, il serait d'accord. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a au sujet de Tsarat Memaenet et Tsarat Haïlonit, on a une marloquette. Shmuel pense que Tsarat Memaenet, elle est ptoua de faire Iboum et Khalitsa. par rapport à celui avec qui on a fait déjà Mioun. Ravasi pense que Tsarat Aylonit, elle est ptoura de faire Khalitsa ou de faire Iboum quand le mari était persuadé, quand il savait pertinemment qu'elle était Aylonit. En conclusion, dans les deux cas, la Tsara peut faire Iboum et peut faire Khalitsa. De la même manière, on a conclu que Tsarat Marzin Grouchato, on a conclu qu'elle pourra faire Iboum ou Khalitsa. Trois femmes, au sujet desquelles il y a le marloquette, est-ce qu'on leur permet d'utiliser des moyens de contraception? Ça fait que de la Gemara, mais en fin de compte, on a expliqué qu'une femme qui a un enfant, quand elle est enfant, ce n'est pas évident qu'elle va mourir. Et pourtant, notre Mishnah a raison de dire qu'une belle-mère, donc une belle-mère, ça sous-entend qu'elle a des enfants, elle ne peut pas, il est impossible d'être face à un cas de mioun, puisque si elle a eu des enfants, ou c'est comme si elle avait des simanim, ou c'est plus que des simanim, ou c'est sûr qu'elle a eu ses simanim, mais peut-être qu'ils sont tombés. Le daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.